BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez ensuite Jean-Marc Daniel dans un format un peu particulier aujourd'hui. Ce ne sera pas le duel avec Christian Chavagneux sur leur coup de cœur et leur coup de gueule. Ce sera un face-à-face avec Xavier Fontanet qui publie son nouveau livre. Et puis bien sûr, nous aurons nos études, nos batteries de statistiques. N'oubliez pas tous nos comptes sur les réseaux sociaux, X, Facebook, LinkedIn, YouTube, la librairie de l'écho, pour trouver la référence précise des livres qu'on évoque dans l'émission. Et tout de suite, on démarre avec nos auteurs. Être libre, c'est choisir, donc être libre, c'est décider. Mais comment décider dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle, à la maison comme en entreprise? Quelle place pour les algorithmes et l'intelligence artificielle? Qui doit être le valet? Qui doit être le maître? Réponse avec nos deux invités. Nicolas Hazard, bonjour.
Bonjour.
Nicolas, vous êtes fondateur du groupe Inco et vous publiez « Je ne suis pas un algorithme » chez Flammarion. Olivier Siboni, bonjour.
Bonjour.
Olivier, vous êtes professeur à HEC et à Oxford et vous publiez avec Eric Hazan « Faut-il encore décider la décision humaine à l'ère de l'intelligence artificielle ?» Vos deux livres, d'ailleurs, sont publiés chez Flammarion. Olivier Siboni, j'aime bien le début de votre livre, cette brève histoire de la prise de décision que vous nous faites, en fait, depuis les oracles jusque aux décisions artificielles. C'est quoi les grandes étapes qui jalonnent ce process de la prise de décision?
Alors, il y a beaucoup d'étapes, mais il y en a une que moi je trouve particulièrement importante et qu'on sous-estime souvent, c'est l'invention de la probabilité. C'est-à-dire l'idée que on ne connaît pas l'avenir, mais que l'avenir ne va pas être choisi par les dieux qui vont être capricieux. En fait, l'avenir peut s'imaginer comme un certain nombre de chemins possibles auxquels on associe des probabilités différentes. Et pourquoi est-ce que c'est essentiel pour l'histoire de la décision? Parce que, à partir du moment où je me dis que l'avenir, c'est plusieurs probabilités différentes, je peux faire le meilleur choix, tout en étant conscient que le meilleur choix ne sera pas forcément gagnant. Je peux, par exemple, choisir une loterie qui a une forte espérance de gain, comme on dit en économie, c'est-à-dire qu'il y a plus de chances que je gagne que de chances que je perde, et ouais. Si je gagne plus que si je perds, donc j'ai intérêt à y aller, mais je ne suis pas sûr de gagner à tous les coups. À partir du moment où on commence à raisonner en probabilité, on commence à séparer le résultat de la qualité de la décision et on commence à pouvoir se demander qu'est-ce que c'est qu'une bonne décision.
Alors,
et ça, c'est encore très important, évidemment, quand on parle d'intelligence artificielle.
Ça, c'est le XVIIe siècle, hein, l'invention.
Exactement.
Des probabilités. Oui, mais alors, sauf que déjà, dans plusieurs domaines, l'intelligence artificielle décide déjà pour nous.
Au XVIIe siècle?
Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, oui. C'est ça. Vous dites, en gros, c'est bien, ça nous donne des scénarios possibles, on peut choisir le meilleur, mais la réalité, c'est que déjà aujourd'hui, dans plein de domaines, en fait, on ne choisit déjà plus. C'est l'intelligence artificielle qui choisit pour nous.
Alors, c'est pas. On a essayé de distinguer deux choses dans ce livre. La description de la réalité, où est-ce que l'intelligence artificielle choisit pour nous, et une vision plus normative, qui est de se dire où est-ce qu'elle devrait choisir pour nous. Et en fait, ce qu'on a essayé de dire, c'est quelles sont les situations où elle devrait choisir pour nous, où on devrait effectivement lui déléguer les décisions. Et là, contrairement à une idée qu'on entend beaucoup, on pense qu'il y a des situations où on devrait accepter que l'IA décide pour nous et qu'on ne repasse pas derrière et qu'on ne soit pas toujours en situation de venir la challenger. Situation peu nombreuse, mais importante. Et puis, il y a beaucoup de situations où on pense qu'elle ne devrait pas décider pour nous. On peut en prendre des exemples, si vous voulez.
On va prendre des exemples. Mais avant, Nicolas Hazard, vous avez quand même un point de départ qui est plus sceptique, plus pessimiste presque, j'ai envie de dire, puisque pour vous, vous dites, nous vivons dans l'illusion d'être libre car nous ne faisons qu'exécuter ce qu'on attend de nous. Donc déjà, en fait, on a l'illusion de décider, mais on ne décide de rien.
Alors exactement, c'est tout le problème de l'addiction. C'est ce que je traite dans le livre, c'est qu'on est un peu addict à notre téléphone portable, aux écrans, et derrière les écrans, il y a des algorithmes. Et ces algorithmes-là essaient de nous définir, de nous dire qui on est comme personne, et nous oriente vers des choix qui sont des choix commerciaux. Mais in fine, on a l'impression que l'algorithme nous comprend, nous connaît, mais ce qu'il connaît, c'est nous en tant que consommateurs, parce que ce qui va l'intéresser, l'algorithme, c'est qu'on consomme des produits que lui va mettre en avant. Mais au fond, il ne connaît pas notre humanité, notre part d'humanité, Et c'est à travers ce livre ce que j'essaie de faire, c'est de montrer que, bien évidemment, les algorithmes, c'est une partie de nous, qu'il faut, voilà, et qu'on a une autre partie qui est son humanité, et qu'aujourd'hui, à force de scroller, on passe son temps dans des tunnels de scrolling, et en fait, on en oublie qui on est, quel est le sens, et pourquoi on est sur cette planète.
Mais ce que vous dites aussi, c'est que finalement, les algorithmes, c'est eux qui font presque nos opinions, et qui savent avant nous ce que nous ne savons pas encore que nous allons vouloir.
C'est-à-dire qu'ils définissent, selon des choses quand même, enfin selon l'historique qu'ils ont sur nous, parce qu'ils ont quand même des connaissances, des connaissances en tout cas sur ce qu'on est, sur ce qu'on aime, sur ce qui pourrait nous plaire potentiellement, et à partir de là, ils construisent un modèle pour nous proposer des produits. Donc, ils définissent ça, et généralement ça marche, parce que si on reste pendant des heures, ça marche. Mais ce qui est encore plus pervers, en fait, il y a ce phénomène notamment de scrolling qui fait que on a l'impression on peut tout choisir. Et en fait, ce qui nous plaît, c'est surtout le fait que apparaisse une information, quelque chose qui peut nous plaire, et qui a cette petite barre qui tourne comme dans le Bandit Manchot, vous savez, les 777 du Bandit Manchot. C'est pas ça qu'on attend. Notre cerveau, parce que c'est notre cerveau qui génère ça. Notre cerveau, il aime quand ça tourne et quand il y a de l'incertitude et finalement que ça arrive sur quelque chose qui est aléatoire. Et donc, il y a toute cette mécanique qui est faite pour qu'on soit addict à ça. Et donc, on a l'impression que ça a de l'importance pour nous, alors que finalement, fondamentalement, ça ne devrait pas en avoir autant.
Alors, Olivier Sibony, vous disiez tout à l'heure, il y a des cas où on sait qu'effectivement, ça sert à rien de vouloir décider nous-mêmes, où on peut, en gros, parce que c'est beaucoup une histoire de confiance, où on peut faire confiance à l'intelligence artificielle. Pour vous, dans quel cas il n'y a aucun problème pour faire confiance à l'intelligence artificielle ?
D'abord, Nicolas a 100 fois raison de nous mettre en garde contre les algorithmes qui nous manipulent. Mais, comme il le dit lui-même d'ailleurs, ce n'est pas les algorithmes qui nous manipulent, c'est les concepteurs de ces algorithmes, les sociétés propriétaires de ces algorithmes, qui utilisent ces algorithmes au service de leur finalité commerciale. Et donc, ce que ces algorithmes démontrent, a contrario, c'est que, en fait, ils marchent très bien. Ils fonctionnent parfaitement bien pour atteindre les objectifs qu'on leur donne. En l'occurrence, quand l'objectif est de vous rendre accro, c'est pas bien, mais du point de vue de la société qu'ils fabriquent, ça marche très bien. Nous, ce qu'on dit, c'est que, pour exactement cette raison-là, quand on a une décision importante à prendre et qu'un algorithme peut la prendre mieux que nous, on a intérêt à lui faire confiance. C'est-à-dire, s'il y a un algorithme qui peut lire une radio mieux que moi et que je suis radiologue, j'ai intérêt à ce que l'algorithme regarde la radio plutôt que moi la regarder. Et en fait, partout où on peut définir très précisément la finalité qu'on poursuit, c'est important, et c'est pas si rare, c'est pas si fréquent que ça, en fait, qu'on sache très bien définir ce qu'on veut. Je veux savoir s'il y a une tumeur sur cette radio ou pas, c'est une question précise. C'est rare qu'on puisse le définir aussi précisément. Donc partout où on peut le définir aussi précisément, et partout où on a suffisamment de données de bonne qualité pour entraîner un algorithme, on va se retrouver dans cette situation-là où on a intérêt à déléguer la décision à la machine. C'est un champ de décision relativement restreint aujourd'hui, qui va s'étendre, parce qu'il y aura de plus en plus de données, mais qui ne recouvrira jamais la totalité de l'expérience humaine, évidemment.
Alors aujourd'hui, vous dites, c'est vrai par exemple pour la santé ?
Pas pour la santé en général, grand Dieu, non. C'est vrai pour certaines tâches précises en santé, ouais. Certaines tâches de diagnostic, typiquement. On n'est pas du tout en train de dire que l'algorithme va remplacer tous les médecins, non. Un médecin qui va rester responsable d'un diagnostic peut choisir, parce qu'il a un algorithme dans lequel il a des raisons d'avoir confiance, parce que cet algorithme a été testé, validé par des autorités indépendantes, ce médecin va dire « moi je fais confiance à l'algorithme pour regarder une radio bon, ». Je ne suis pas du tout en train de dire que le patient va s'adresser à l'algorithme, entendons-nous bien.
Nicolas Hazard, vous dites qu'il faut revenir à l'eudémonisme grec au lieu de rechercher l'hédonisme. Expliquez-nous ces notions.
L'hédonisme, c'est la recherche de plaisir. On a envie de se faire plaisir, on a envie de se faire kiffer, comme on dit. Donc c'est cette addiction de générer de la dopamine, toujours du plaisir. Donc on est addict à nos écrans, on est addict aujourd'hui à l'alcool, on peut être addict à la drogue, on peut être addict au sport, à la pornographie. Il y a plein de manières d'être addict. Et donc ça c'est on cherche l'instantané. Et donc on cherche le plaisir instantané. Le démonisme, à l'inverse, c'est pas la recherche de plaisir, c'est la recherche du bonheur. C'est-à-dire que on va se dire moi, mon but, c'est d'être heureux. Et comment je fais pour être heureux ? C'est pas forcément en ayant plein de petits plaisirs cumulés. Être heureux, c'est avoir du sens dans sa vie. Rechercher pourquoi, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui fait du sens, en quoi je peux être utile, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer, pour réussir ma vie. Et c'est intéressant parce que j'ai notamment vu une étude qui était faite par une infirmière en soins palliatifs qui, pendant une quarantaine d'années, a rassemblé tout ce que leurs patients lui confiaient sur leur lit de mort. Et en fait, il y a six ou sept affirmations qui sont toujours les mêmes. C'est « j'aurais dû moins travailler pour gagner de l'argent, j'aurais dû faire quelque chose qui a du sens, j'aurais dû m'occuper plus de ma famille, etc. » Et donc, on voit que la recherche du bonheur, c'est justement se poser les grandes questions. Et c'est ces grandes questions, et notamment que les jeunes générations préfèrent éviter de se poser parfois, et nous-mêmes, en scrollant. Parce que finalement, plutôt que de se demander quel est le sens dans ma vie, en quoi je peux être utile, pourquoi je suis fait et qu'est-ce qui est fait pour moi, je préfère jouer à Candy Crush ou à un autre jeu vidéo parce que ça me fait passer du temps et ça me donne l'illusion d'être heureux, alors que finalement, ça nous enferme et ça ne nous permet pas de trouver le bonheur.
Olivier Cibony, parce que on a bien compris le cas dans lequel on pouvait faire confiance finalement à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes en concurrence pour décider et que l'intelligence artificielle contredit l'humain?
Deux cas de figure. Soit on est dans le cas dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, qui est celui où on a une intelligence artificielle à laquelle on sait dire ce qu'on veut et qui est meilleure que nous pour le trouver. Par exemple, j'ai parlé de lire des radios, ça pourrait être un algorithme qui fait du trading algorithmique quand on est trader. Là, en fait, ce qui est très paradoxal et très contraire à ce qu'on entend beaucoup partout, c'est qu'il faut accepter de laisser le dernier mot à ce modèle d'IA. Une fois qu'on a décidé qu'il y a un modèle d'IA qui est meilleur que nous, et il faut être très très exigeant pour avoir ce niveau de confiance, mais une fois qu'on l'a décidé, il faut accepter de lui faire confiance, parce que s'il est meilleur que nous, ça ne peut être que parce que quand nous ne sommes pas d'accord, c'est lui qui a raison et nous qui avons tort. Sinon, il ne serait pas meilleur que nous. Si on n'en tient compte que quand il est d'accord avec nous, on ne peut pas améliorer nos décisions. Donc il faut accepter, et c'est psychologiquement très difficile, que sur des décisions bien précises, encore une fois, l'IA qui n'est pas d'accord avec nous, c'est elle qui a raison. Deuxième cas de figure qui est très important, celui où on n'a pas ce modèle validé. Par exemple, parce qu'on est sur des questions plus philosophiques. Quel est le sens, si je demande à ChatGPT quel est le sens de la vie, je ne suis pas sûr qu'il va me donner une très très bonne réponse. De manière générale d'ailleurs, l'intelligence artificielle, le mot est intéressant, n'est jamais que la reproduction artificielle de ce qu'on appelle l'intelligence de manière assez réductrice. Parce que l'intelligence, au fond, quand on mesure l'intelligence, c'est quoi ? C'est la capacité à donner la bonne réponse à des questions qui ont une bonne réponse. Les questions, comme celles dont vous parliez il y a un instant, qui n'ont pas de bonne réponse, mais qui sont les plus importantes dans la vie, en fait, ce n'est pas ce qu'on appelle l'intelligence en psychologie, et donc ce n'est pas ce que l'intelligence artificielle nous donne. Donc il y a des tas de choses pour lesquelles l'intelligence artificielle ne nous donnera jamais la bonne réponse, parce que ce n'est pas ce que sait faire l'intelligence artificielle de manière générale.
Mais alors, il y a ce problème derrière la science, en fait, il y a beaucoup de sujets sur lesquels, effectivement, il y a ces problèmes philosophiques, Nicolas. C'est-à-dire que on peut considérer que l'intelligence artificielle est mieux à même de décider, mais tout dépend aussi des priorités qu'on lui a données. C'est-à-dire, est-ce qu'on privilégie le plaisir à court terme ou le bonheur? Est-ce qu'on privilégie le court terme ou le long terme? Est-ce qu'on privilégie, l'efficacité ou l'équité? Est-ce qu'on privilégie les jeunes? Est-ce qu'on privilégie les vieux?
C'est surtout que ça a été démontré scientifiquement. Il y a des algorithmes qui sont racistes, qui sont discriminants, etc. à plein d'égards. Pourquoi? Parce que derrière les algorithmes, il y a des gens qui sont derrière, notamment, et qui peuvent les coder. Donc, c'est des gens dans la Silicon Valley ou ça peut être des gens en Chine, etc. Et il y a un manque aujourd'hui aussi, y compris sur la data qu'il y a sur le web en règle générale, de l'ensemble de la diversité des gens, etc. Et donc, du coup, il faut garder l'esprit critique par rapport à mon sens, par rapport à ça. Ça me fait penser ce que vous dites sur un cas qui vient de se dérouler il y a pas longtemps, qui est le cas de Kylian Mbappé, à qui on a fait un faux diagnostic pour son genou. Là, très récemment.
Parce qu'on s'est trompé de genou.
Parce qu'on s'est trompé de genou et qu'aujourd'hui, les médecins, les équipes accusent les médecins et le club d'utiliser ChatGPT pour faire les diagnostics de tout ça. Donc, il y a.
C'est un bon exemple. Mais c'est un bon exemple parce que c'est pas ChatGPT qui allait mettre le mauvais genou sous la machine.
Exactement. Donc,
c'est ce qu'on appelle une erreur humaine.
Et il y a une erreur humaine.
Et ça, c'est quand même important. C'est qu'à force de célébrer la beauté du génie humain et de parler du danger des algorithmes, on oublie que les humains font des erreurs aussi.
Bien sûr, mais derrière les algorithmes, il y a aussi des humains. Et donc, du coup, moi, je peux vous donner 200 exemples de que ce soit ChatGPT, Mistral ou etc., qui me font des vraies bêtises et qui me sortent des vraies bêtises. Donc,
bien sûr,
il faut garder cet esprit critique par rapport à ça. Les modèles ne sont pas parfaits. On est au début de cette ère-là. Et ça va encore progresser, ça va encore augmenter. Donc après, c'est comme pour les étudiants aujourd'hui et les plus jeunes qui font leurs devoirs avec ChatGPT. Bon, si on comprend pas le sujet, on va pas faire le bon prompt à l'intérieur d'une IA et donc on aura un résultat qui sera à côté de la plaque parfois. Donc du coup, c'est pareil. Il faut aussi, il faut pouvoir comprendre et comprendre les sujets en profondeur avant et garder son esprit critique.
Il faut bien sûr garder son esprit critique, mais j'insiste quand même sur un point. Pour avoir un esprit critique par rapport à un modèle, il faut être meilleur que lui. Et il y a beaucoup de sujets, quand vous regardez ChatGPT et que vous lui posez des questions de philo, je suis sûr que vous êtes meilleur que lui. Je suis pas sûr que ça soit le cas de tout le monde. Et en fait, à force de dire qu'il faut avoir de l'esprit critique, on finit par oublier que les humains se trompent aussi. Vous prenez l'exemple des biais. Bien sûr, les algorithmes ont des biais. Bien sûr. Pourquoi ils ont des biais? Parce qu'ils sont entraînés sur la base des décisions humaines dans lesquelles il y a ces biais. Donc, si c'est pour dire que les algorithmes ont des biais et que donc il faut revenir à la décision humaine, on est en train de faire l'erreur de quelqu'un qui se dit « Ouh, je regarde le miroir, j'ai mauvaise mine, je casse le miroir ». Non, l'algorithme nous tend le miroir.
Moi, je dis pas ça du tout.
Mais je sais bien que vous dites pas ça. Je sais bien que vous dites pas ça, mais ça peut être compris comme ça. Donc, le danger est de dire « L'algorithme a des biais, donc n'utilisons pas l'algorithme, utilisons notre esprit critique ». Notre esprit critique, il fait des erreurs aussi. Alors, en fait, ce qu'on devrait faire dans ce genre de cas, c'est se demander comment est-ce qu'on fait en sorte que l'algorithme soit meilleur que nous
question,
par rapport aux paramètres qui sont importants pour nous, comme de ne pas avoir de biais, par exemple.
La question que je vous pose à tous les deux, c'est qu'effectivement, son esprit critique, c'est de plus en plus difficile de l'exercer. Notre humanité, c'est de plus en plus difficile de la cultiver, parce que la réalité, c'est que nous avons accepté au fur et à mesure des innovations technologiques que ces innovations, finalement, atrophient tout notre appareil critique et tous nos sens. En gros, je suis désolé, mais la calculatrice, ça nous a quand même rendu plus mauvais bien en sûr. Calcul mental. Avec Google Maps, tout le monde est infoutu de regarder une carte et de se repérer dans la rue. Donc, on a quand même cette problématique de l'atrophie de nos capacités par ces nouvelles technologies. Et du coup, qu'est-ce que l'esprit critique, comment peut-il résister à tout ça?
En fait, pour moi, vraiment, le point de départ, c'est que les technologies, elles sont pas bonnes ou mauvaises par essence. L'IA, c'est pas bon ou mauvais par essence. L'IA, c'est un outil, c'est une boîte à outils. C'est comme un marteau. Avec un marteau, je peux construire une maison, ou avec un marteau, je peux fracasser la tête de quelqu'un. Bah, c'est la même chose avec l'IA. L'IA, ça reste un outil. Il faut le laisser à cette place-là. Donc à partir de ce moment-là, sur les capacités qu'on a, bah, si vous me prenez l'exemple par exemple du GPS et de etc. On passait son temps avant sur des cartes routières, on mettait trois fois plus de temps pour aller d'un point A à un point B parce qu'on regardait, parce qu'on n'était pas sûr, parce qu'on se trompait de route, parce qu'il fallait revenir en arrière, etc. Je dis pas que les GPS sont parfaits, moi j'arrive à me planter même avec un GPS en voiture, mais je dis juste que ça c'est un temps qu'on gagne aussi pour faire autre
Absolument.
Chose. Et après ce temps-là, c'est à nous de décider, c'est là où on est souverain. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Une fois qu'on a gagné, grâce à ces outils-là, du temps pour faire des choses, qu'est-ce qu'on veut en faire? Est-ce que c'est on prend ce temps pour lire plus, pour s'informer, pour faire des choses
Ou pour scroller sur TikTok.
Ou pour scroller sur TikTok, voilà. Mais c'est individuellement que je prends la responsabilité.
Enfin, attendez, ça c'est quand même la grande désillusion de ces technologies. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Internet est arrivé, on a dit « ça y est ». C'est la connaissance gratuite, immédiate, disponible gratuitement, et ouverte à tout le monde. Le résultat, c'est que les curieux regardent des trucs de curieux et que les crétins regardent des trucs de crétins. Et,
oui.
et que finalement, il n'y a pas cet aspect finalement élévateur de l'homme. En gros, le plus gros danger, c'est la paresse.
Le grand danger sera toujours la paresse. Et on a tous laissé des compétences s'atrophier qui étaient essentielles il y a 10, 100 ou 1000 ans. Vous savez, vous, faire un feu avec des silex?
Non, c'est vrai.
Ben, vous n'auriez pas survécu très longtemps. Heureusement, pendant tout le temps que vous ne passez plus à faire du feu avec des silex, vous lisez des livres d'économie.
Ouais.
C'est un meilleur usage de votre temps, on dit la même chose.
Alors, il y a un point sur lequel, effectivement, vous ouvrez des perspectives différentes tous les deux, c'est... Est-ce que finalement toutes ces technologies nous rendent plus individualiste et nous pousse au repli sur soi, ou bien, Olivier Siboni, c'est l'hypothèse que vous développez, ou bien est-ce que ces outils vont permettre ce que vous appelez un renouveau citoyen ?
Alors, on espère qu'ils vont permettre un renouveau citoyen, on plaide pour qu'ils permettent un renouveau citoyen, c'est pas gagné. C'est un pari qu'il faut prendre, c'est un choix qu'il faut faire. En fait, le danger qu'on a identifié, c'est de se dire, ces algorithmes, vous en donniez l'exemple quand vous parliez des algorithmes des multinationales, des réseaux sociaux qui ont des objectifs et qui nous attirent dans leur piège d'une certaine façon, si on laisse les objectifs au service desquels on met l'IA être définis par les intérêts de telle ou telle multinationale ou par des technocrates qui ne nous demandent pas notre avis, on va avoir un vrai problème de rejet. On va avoir un problème de rejet qui sera compréhensible parce que personne ne veut que les algorithmes le manipulent au service de finalités qui ne sont pas les siennes. Ce rejet, on commence à le voir dans beaucoup d'endroits. On commence à le voir aux États-Unis, où on voit les gens se mobiliser contre les data centers parce que c'est la partie la plus visible de l'iceberg. On le voit en France, où on voit 3000 universitaires qui se déclarent objecteurs de conscience face à l'IA générative. C'est quand même fort comme terme d'être objecteur de conscience. C'est-à-dire, on refuse de l'enseigner, on refuse de l'étudier, on refuse de la critiquer, on refuse d'y toucher, on ne veut pas en entendre parler. On a quand même affaire à un vrai rejet. Donc, si on ne met pas l'IA du côté du citoyen, on va avoir ce rejet-là. Comment est-ce qu'on la met du côté du citoyen ? En impliquant les citoyens ou les employés d'une entreprise, en impliquant la base, de manière générale, dans la définition des finalités. Si on utilise une IA, par exemple, pour avoir un réseau social interne, ce réseau social, il doit être utilisé pour faire quoi ? Au service de quoi ? Et c'est comme ça qu'on va avoir, je pense, une adhésion à l'IA, et qu'on peut d'ailleurs s'en servir comme d'un outil pour avoir une démocratie directe beaucoup plus vivante. Parce que les citoyens, aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, ne participent pas au débat démocratique. L'IA peut devenir un outil pour qu'ils y participent beaucoup plus.
Nicolas Hazard, vous citez cette phrase formidable d'Anna Arendt, « Le danger, c'est que l'homme puisse perdre sa capacité d'agir ensemble. »
Ouais, exactement. C'est que, de toute façon, aujourd'hui, l'individualisme, ce n'est pas nouveau. Enfin, Durkheim, il en parlait déjà il y a plus d'un siècle. Hein, donc, il disait « Il ne reste à l'homme à aimer plus que lui-même. » Donc, en fait, les IA, les algorithmes, les écrans, les réseaux sociaux, c'est un accélérateur d'un mouvement qui a déjà commencé depuis bien, bien, bien longtemps. Cette société de plus en plus individualiste, cette société d'ultra-consommation dans laquelle on est. Et depuis 10 ans, et ben effectivement, ça s'accélère de plus en plus parce que les outils qui sont utilisés sont extrêmement puissants. C'est ceux de l'IA, mais encore une fois, ces outils-là sont utilisés à mauvais escient, en tout cas pour moi, si vous me demandez mon opinion. Mais on peut l'IA, moi, je peux l'utiliser pour sauver des vies, pour créer des choses qui ont énormément d'impact et faire des choses. Alors, c'est un projet de société.
Même question qu'à Olivier Siboni. Comment fait-on pour retrouver le goût des autres ?
Alors, c'est exactement c'est la bonne question à se poser. C'est ce que j'essaie de faire à travers le livre, en donnant des conseils, des astuces à titre individuel, de comment s'extraire individuellement, ou comment aider aussi ces enfants, ces ados qui sont accros à la tablette et aux écrans, comment on s'extrait à titre individuel de ça, donc comment on peut faire des cures, des petites cures de détox de 24 heures sur les notifications, etc. Comment on sort de cette addiction dans laquelle on est, qui nous met dans un état dépressif souvent, qui crée beaucoup de malaise. Et ensuite, deuxième étape, c'est comment on trouve du sens. Et pour trouver du sens, il faut comprendre ce qui est important pour nous. Et là encore, je donne des petites astuces, comment faire des exercices pour que chacun puisse retrouver ce qui est important pour lui, ce qui a du sens, et comment on retrouve le goût de faire ensemble. La première des motivations, et je le dis dans un des chapitres, c'est que on pense que acheter, quand on achète sur les réseaux sociaux, ça génère de la dopamine. Ce qui génère encore plus de plaisir et de dopamine, c'est de donner, l'acte de donner. Et ça, c'est des études scientifiques qui l'ont montré. Donner, par exemple, ou faire du bénévolat pour les personnes âgées, ça augmente l'espérance de vie par rapport à des personnes qui n'en font pas. Et donc, il faut qu'on repense aussi notre vision et notre perception par rapport à la société et retrouver cette humanité qu'on a en nous.
Olivier Siboni, le bon choix, c'est moins de réseaux sociaux, plus d'intelligence artificielle ?
À moins de réseaux sociaux, sûrement. Plus d'intelligence artificielle, oui, mais ça dépend pour quoi faire. Il y a le cas où il faut, j'en ai parlé, leur déléguer les décisions. Il y a un autre cas dont je n'ai pas encore parlé, qui est, en fait, toutes les situations où on ne sait pas très bien ce qu'on veut.
Ouais.
Et où donc, on ne peut pas dire à l'algorithme « dis-moi quoi choisir » parce qu'on ne sait pas le paramétrer pour lui dire ce qu'on veut. Et là, en fait, il y a un très bon usage de l'intelligence artificielle qui fait écho à ce que disait Nicolas, qui est de l'utiliser pour penser contre soi. Il y a une métaphore que j'emprunte à une autrice qui s'appelle Marion Carré, qui est de dire ça peut être un tapis roulant qui vous évite tout effort, mais en fait, un tapis roulant, c'est aussi un tapis de course si vous le prenez dans l'autre sens et que vous l'utilisez pour vous entraîner. Ben là, c'est pareil. Vous pouvez utiliser l'algorithme pour vous dire quoi faire, et dans certains cas, c'est bien, ça vous fait gagner du temps, mais il faut faire attention. Vous pouvez aussi l'utiliser pour vous challenger, pour vous demander quelles sont les erreurs que vous êtes en train de faire, quelles sont les choses auxquelles vous n'avez pas pensé, quels sont les doutes que vous devriez cultiver. Et si vous l'utilisez pour ça dans vos décisions, vous allez, j'espère, prendre des décisions un petit peu plus riches.
Voilà. Bon, bah, l'IA, c'est l'émancipation, les réseaux sociaux, c'est l'esclavage.
Ça, c'est sûr.
Voilà, au moins. Voilà, mais on peut vous avez une ligne directrice. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos livres. Nicolas Hazard, Je ne suis pas un algorithme. C'est chez Flammarion. Olivier Siboni avec Éric Hazan. Faut-il encore décider? C'est également chez Flammarion. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Vous aurez droit évidemment à notre choix de la rédaction, aux études de la semaine. Mais tout de suite, alors on démarre dans un format un petit peu particulier. Ça n'est pas le duel entre Jean-Marc Daniel et Christian Chavagneux que vous allez retrouver cette semaine, mais un face-à-face. Jean-Marc Daniel face à Xavier Fontanet, donc Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, Xavier Fontanet, patron multi-réussite, multi-successful. Xavier, vous êtes un des plus grands patrons français des 50 dernières années, il faut le dire, vous avez réussi partout. Bah si, vous avez fait faire x10 à toutes les boîtes que vous avez dirigées.
Oui, mais on s'en est pas rendu compte, c'était naturel.
Eh ben voilà, mais nous, voilà. On s'en est rendu compte.
Bon, d'accord.
Tout le monde vous connaît à BFM Business et donc publié un nouveau livre, Xavier Fontanet, Le grand-père et le président. Alors Jean-Marc Daniel, de quoi s'agit-il dans ce grand-père et le président ?
Alors, il s'agit d'un livre où Xavier Fontanet, d'abord, ne parle pas de l'entreprise en tant que telle. C'est un livre qui est un livre de conseils, d'analyse et de réflexion sur la situation économique du pays et sur ce qu'il faut faire. Sur la forme, le choix fait par Xavier Fontanet, c'est de choisir un dialogue fictif. Alors, c'était très à la mode à une certaine époque, au XVIIIe siècle, on faisait beaucoup ça. Le modèle, c'était le Bélisaire de Marmontel. Et au XIXe siècle, c'était le dialogue entre Montesquieu et Machiavel aux Enfers de Joly. Et donc, on fait plus ça vraiment maintenant. Donc, c'est assez original. J'ai trouvé ça plutôt sympathique de remettre en place à l'honneur ce type d'organisation du discours et du texte. Les deux personnages qui sont concernés sont le grand-père et le président. Le président, c'est le petit-fils du grand-père. Et il vient d'être élu. Nous sommes après les élections présidentielles de 2027. Le grand-père a un passé de chef d'entreprise brillant. On peut penser que c'est Xavier Fontanet. Le petit-fils, on ne sait pas si c'est le petit-fils de Xavier. En tout cas, c'est la personne qui prend les responsabilités et qui est donc comme un président naturel de la Ve République, il est énarque, il a fait du cabinet ministériel et ils échangent sur qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc plusieurs pistes sont ouvertes. On retrouve assez souvent dans le livre cette image, cette métaphore que je trouve assez bien vue et assez judicieuse sur l'économie mondiale comme une course hippique dans laquelle il y a effectivement des chevaux qui sont l'économie mondiale, l'économie de chaque pays plus exactement, et puis dessus il y a le jockey qui est l'État.
Ouais.
Et donc on parle d'État obèse, alors le jockey est pas obèse complètement, mais il est quand même en surpoids en ce qui concerne la France. Et donc ce que montre bien Xavier Fontanet, c'est que le véritable enjeu, le véritable handicap de la France, c'est effectivement cette augmentation de la dette et surtout de la dépense publique. Alors de façon assez originale, il considère que ça a commencé non pas avec Mitterrand et le 10 mai 81, mais avec Giscard et l'élection de 74, où les dépenses publiques ont vraiment commencé à augmenter. Et il dit, c'est ça qui a... Et alors après, il essaie de proposer des solutions. Dans ces solutions, il y a d'abord des comparaisons avec l'étranger, il y a toute une analyse du modèle de ce qui s'est passé au Canada, toute une analyse de ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, il y a une étude de la Suisse, et puis il y a des focus sur quelques problèmes. Alors, il y a des moments où Par exemple, moi, je ne suis pas d'accord avec certaines choses. C'est-à-dire, je ne pense pas que la réindustrialisation soit souhaitable, ni même possible, de toute façon. Et puis, il y a une question, et là, j'ai vu le vieux fonds démocrate-chrétien de la famille Fontané. Ah, ouais. Il y a toute une question sur la démographie, sur les raisons pour lesquelles on est en situation de, et sur le rôle de la famille. Et donc, c'est aussi, ça aussi, ça fait partie de l'originalité du texte. C'est-à-dire, c'est pas uniquement des statistiques, c'est aussi une forme de conviction, démocrate-chrétienne, qui fait de ce livre, à la fois une originalité et une fidélité. Je ne sais pas si Xavier Fontané est le petit-fils de quelqu'un, mais on voit bien qu'il est le fils de quelqu'un qui était l'ancien ministre MRP, enfin, gaulliste MRP.
Bien sûr, bien sûr,
alors, oui. Xavier Fontané, enfin, bon, votre commentaire sur le commentaire de Jean-Marc Daniel.
Ah ben, absolument remarquable. Hein. Moi, j'ai rien à dire, tout a été dit. Hein. Tout a été dit. Alors, attendez, effectivement, en fait, je voulais dire un truc amusant, c'est que ce livre est assez incroyable. Ça a commencé par une demande de contribuables associés. Ils m'ont demandé de faire des éditos. Et alors, c'est là qu'on a imaginé l'idée du dialogue entre le grand-père et le petit-fils, parce que on a besoin de discuter des sujets les plus graves, mais de façon apaisée. Oui, mais et au fond, le grand-père, alors, il est fier du petit-fils, et le fils est... Et donc, en fait, on va discuter entre générations de façon apaisée. D'accord. Donc ça, c'était l'idée de base, vous
d'accord,
voyez.
D'accord, Xavier Fontané, mais on sent bien que, au fond, sur le diagnostic, l'état de santé du malade,
ah oui,
il y a consensus. Et qu'on voit bien qu'il y a quand même, c'est comme disait Margaret Thatcher, me dites pas ce que je dois faire, je le sais déjà, mais dites-moi comment.
Oui.
Et c'est surtout ça, en fait. Vous lui donnez des conseils. Alors, pour réussir là où tous les autres ont échoué avant lui.
Voilà. Alors, écoutez, on va s'amuser à discuter. Je pense que les médias ont un rôle absolument capital, parce que quand j'ai eu la chance de discuter avec Jean Chrétien, Roger Douglas et Hartz surtout, qui étaient des acteurs. Ils ont tous dit que...
Ce sont des premiers ministres éléments, ou des ministres qui ont fait des grandes
réformes. Voilà. Jean-Christian, c'est le Canadien.
Le Canadien.
Et Douglas, c'est le Néo-Zélandais.
C'est le Néo-Zélandais.
Et Hartz, c'est l'Allemand.
Hartz, c'est l'Allemand. Et alors, en fait, moi, j'ai eu la chance de les rencontrer, parce qu'avec Essilor, c'est totalement mondial.
Et, oui.
Et comme le verre ophtalmique, c'est un produit qui est médical, on rencontre quand même les autorités avant de lancer un nouveau progressif. Donc, j'ai eu la chance insigne de les rencontrer. Et alors, ce livre est un peu l'enfant d'un premier livre que j'avais écrit qui s'appelait Pourquoi pas nous? Où j'avais écrit dans un grand détail les trois réformes. Et alors, les trois m'ont dit, écoutez, il y a un élément absolument clé, c'est les médias. Et d'ailleurs, c'était l'obsession de Pompidou à sa mort.
Ah oui.
C'était la dérive des médias vers le spectaculaire. On va chercher l'opposition. Plus on fait de drame, plus on a de pub.
Ah
et ouais, donc,
aujourd'hui, il serait pas déçu.
Ben oui, donc c'était très bien. Et donc, les trois ont dit que, surtout Hartz en Allemagne, Bertelsmann à un moment donné a dit, écoutez, l'Allemagne est en danger. On va laisser Schröder et Hartz expliquer posément leur politique. Sans tout le temps les contredire. Et le groupe donc avait à la fois des quotidiens, il avait aussi des organismes régionaux, et donc ils ont facilité la communication avec le peuple. Bon, Jean Chrétien au Canada, il a fait une année avec Paul Martin, son ministre des Finances, où ils ont fait de la région. Et donc, moi je pars de l'idée que les Français, si vous voulez, si on arrive à les prendre au sérieux et qu'on a la possibilité de leur parler comme Napoléon parlait aux grognards la veille des batailles, eh bien, quand on commence à prendre les gens au sérieux, on peut dire des choses très...
Mais
et ils vous écoutent. Et moi,
Fontané,
j'ai vécu ça dans le business.
Oui, mais est-ce que le problème, c'est pas vos clients ou c'est pas les Français? Le problème, est-ce que c'est pas la haute administration, qui est responsable de cette simplification à laquelle on n'arrive jamais?
Il faut prendre tout le monde en même temps, si vous voulez. Effectivement, chacun est important, si vous voulez. Le très grand fonctionnaire a la même importance que le paysan. Pour moi, j'ai mis tous au même niveau. Et il faut expliquer que tout le monde est important et il faut prendre. On se met tous ensemble et on discute. Et on ne met pas de différence entre le très haut fonctionnaire qui pond une truc et le paysan qui est en train de planter ses pommes de terre. Voilà.
Non, ce que je trouve intéressant dans le livre, c'est d'abord dans la préface qui est faite par le responsable de Contribuables Associés, qui est donc l'association, l'organisation. Il dit bien, le véritable enjeu maintenant, c'est de dépasser l'incantation. Parce que tout le monde, on revient sur la phrase de Margaret Thatcher, c'est tout le monde a compris, tout le monde est à peu près d'accord. Il faut sortir de cette logique de l'incantation. Voilà. Il y a qu'à Faucon et quand même, à un moment donné, je ne sais pas si c'est vraiment bien perçu par le grand-père et tout ça et le petit-fils. Mais à un moment donné, le petit-fils dit au grand-père, bon, c'est normal qu'il y ait des gens qui soient critiques, c'est normal. Bon, et le grand-père lui dit, oui, mais il y a un moment où il faut arrêter. il y a un moment où la critique devient totalement négative parce que la critique finit par étouffer la créativité du groupe. Et ça, je crois que c'est un véritable enjeu. C'est peut-être là qu'effectivement, il y a véritablement une réponse à apporter. Vous parlez des médias, mais est-ce qu'il n'y a pas, pour aller au-delà, vous dites aussi qu'il faut sortir de l'éducation nationale pour retrouver l'expression de la Troisième République, qui était l'instruction publique.
Bien sûr.
Donc, est-ce qu'il n'y a pas véritablement tout un appareil de diffusion, d'organisation de l'information qui est défaillant, qui ne se limite pas aux médias, qui est aussi la faculté, qui est aussi l'éducation primaire, qui est aussi...
C'est très profond. Alors, je veux dire, il y a le français. Moi, je pense que j'ai la chance de travailler dans tous les pays du monde. Et donc, avec Essilor, j'ai eu la chance de diriger, j'ai dirigé comme PDG des Japonais, des Coréens, des Allemands, des Américains. Et alors, le français, il a une caractéristique très unique, c'est un sens de la critique formidable. Et quand vous avez un comité exécutif de tous les pays... Le français, à 9h du matin, il va arriver en disant ce qui va pas. Et il a fait son boulot. Et il est content, il a foutu le bordel, et il travaille plus. Alors qu'après, quand vous avez les Américains, les Allemands ou les Japonais, ils ont compris le problème et toute leur énergie est mise sur la solution. Et donc, on a un vrai problème.
Comment le résout, ce problème ?
Eh ben, avec les mélanges, quand on mélange les gens... Alors, je crois qu'il y a un moment donné de timing, si vous voulez... Il faut attendre que la situation soit très mauvaise, parce qu'à un moment donné où les gens quand même commencent à se rendre compte que ça va du tout. Et alors après, c'est le problème de vraiment le moment où on frappe. Donc le timing. Moi, je sais que j'ai vécu quand même, on va dire, une dizaine de retournements d'entreprises qui allaient pas. Quand je suis rentré chez Essilor, on peut le dire maintenant, ça allait très mal. Ça allait très mal. Et alors, ce que j'ai fait, Essilor avait été le premier client du BCG, et donc j'avais travaillé pendant 8 ans comme consultant. Donc, quand je suis rentré à Essilor en 90, je connaissais tout le monde. Et ils m'avaient cherché parce qu'ils savaient que ça allait mal. Et donc, j'ai fait une étude de tout ce qui n'allait pas. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était prêt. Et il y a eu une très grande séance dans laquelle, avec Philippe Alfroy, qui était le DG, donc un ancien, on a vraiment expliqué que ça n'allait plus, qu'on allait sur le mur. Et quelque part, les gens ont compris. Et on a expliqué qu'il fallait se priver, il fallait enlever... 3 divisions fondamentales, les verres de contact, les implants intraoculaires et les montures.
Comme Xavier Fontanet.
Et là, les gens, vous savez ce qui est passé? C'est qu'il y a eu un moment donné un silence dans la salle et les gens ont été rassurés qu'on commence à dire, mettre le point sur la table et ils savaient qu'on était déterminés à aller jusqu'au bout. Et il y a eu un miracle. Toute la salle s'est tue.
Mais donc aujourd'hui, la France ne va pas assez mal pour qu'on puisse espérer ce sursaut?
Alors attendez, vous voyez par exemple, je vais les médias d'aujourd'hui. Ou de la semaine dernière. On voit par exemple que la montée du pétrole fait monter les taux d'intérêt et il y a un coût de combien de milliards ? Il faut commencer à expliquer que c'est la moitié de l'éducation qui passe à la trappe. Regardez, je me suis amusé à faire des tweets. Le grand porte-avions, vous savez combien il faut repousser pratiquement c'est une demi-année de décalage du départ à la retraite pour payer le porte-avions, si on s'en paye. Oui, et donc on a des occasions tous les jours.
Vous croyez à la pédagogie?
Absolument. Et merci. C'est pour ça que je crois aux médias.
Merci.
Et vous avez un grand rôle, une immense responsabilité.
Merci. Hein on va essayer. Marc, vous êtes autant journaliste que moi, quasiment.
Vous faites du bon boulot.
Merci.
Je vous le dis.
Xavier Fontanet, donc le grand-père et le président. Eh bien, c'est l'heure de retrouver notre étude de la semaine.
BFM Business, la librairie de l'écho, l'étude de la semaine.
C'est cette enquête événement sur la santé mentale au travail menée par l'IFOP pour Moka Care, le BCG et le GHU Paris Psychiatrie. On est avec Fanny Potier. Bonjour Fanny Potier.
Bonjour.
Fanny, vous êtes directeur associé au BCG, spécialiste des questions autour de l'humain et... vous avez donc analysé cette étude. Alors, étude sérieuse, 2000 Français interrogés sur leur santé mentale au travail. Bon, j'ai envie de dire que la première conclusion, elle est quand même plutôt rassurante, puisqu'on a quasiment les 3/4 des salariés qui disent qu'ils vont bien.
Oui, cette étude nous donne pas mal de bonnes nouvelles. Donc c'est le deuxième baromètre sur la santé mentale que nous conduisons. L'amélioration en termes de santé mentale est réelle, puisque 74% des salariés se déclarent en situation de bien-être mental, et ça représente une hausse de 4 points par rapport à 2025. le travail reste un facteur de stabilité et de protection dans un contexte qui, par ailleurs, est anxiogène, puisque 69% des salariés estiment que le travail contribue positivement à leur santé mentale.
Ah oui, alors ça veut dire que avant, c'était plutôt le travail qui était une épreuve, entre guillemets, et on trouvait refuge chez soi. Maintenant, c'est au travail qu'on est heureux.
Pas forcément, parce que la statistique de contribution positive à la santé mentale reste plus ou moins stable par rapport à 2025, mais c'est vrai qu'il y a des mythes à tuer en matière de santé mentale. N'oublions pas, malgré tout, que un participant sur 8 nous dit quand même que ce sont d'abord les amis et la famille qui impactent positivement leur santé mentale.
Ouais.
Mais 2/3 nous disent que le climat, la géopolitique, le contexte politique et économique ont un impact négatif sur leur santé mentale.
Alors alors tout ne va pas bien pour autant. C'est quoi les principaux sujets d'inquiétude aujourd'hui sur la santé mentale des Français au travail?
Disons que déjà, si on reste un petit peu sur les grands chiffres, ce qui nous intéresse quand même et qui nous alerte, c'est qu'il y a un certain nombre d'inégalités en matière de santé mentale, avec des femmes et des jeunes qui sont plus exposés, puisque les femmes affichent un score de bien-être inférieur aux hommes, et 76% des moins de 35 ans déclarent avoir déjà ressenti un trouble lié au travail. Or, si on le regarde du point de vue de l'entreprise, ce sont des viviers de talents qui sont très importants et dont il faut prendre soin, comme les hommes, mais dont il faut prendre soin par rapport à leurs besoins et qu'il faut entendre.
Vous diriez qu'il y a une forme de gaspillage un peu du capital humain
Ce qu'on dit régulièrement, c'est que la matière humaine est complexe en entreprise. Donc, il est important d'écouter toutes les nuances des besoins pour se rapprocher, on n'est pas à l'échelle individuelle, mais pour se rapprocher de besoins un peu différenciés, les adresser pour que chaque jour, on arrive au travail au mieux de sa forme, surengagé et qu'on soit très content d'être là. Voilà.
C'est quoi le principal problème de santé au travail des Français en matière psychologique? Est-ce que le burn-out reste toujours finalement l'ennemi numéro un?
C'est vrai que le burn-out, sur les deux études, alors le taux de burn-out déclaré diminue un petit peu, mais on peut quand même dire qu'il tend à s'installer comme un phénomène structurel et qui pose un certain nombre d'enjeux RH. Alors, il y a des nuances parce que il y a 24% des salariés nous disent avoir fait un burn-out dans les 5 dernières années, donc on est sur des temps longs. 62% d'entre eux ont reçu un avis médical. Donc, les 38% restants n'ont pas reçu d'avis médical. Ceux qui ont reçu des avis médicaux, en revanche, pour 36% d'entre eux, ils ont été arrêtés avec des variations des temps d'arrêt qui sont un peu différents selon la nature du burn-out. Mais voilà, donc il y a des conséquences qui sont importantes pour l'individu et l'entreprise.
Quand vous dites que ça devient un phénomène structurel, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que la dernière enquête en 2025 nous donnait un taux de burn-out pareil sur une observation de 5 ans qui était proche de 28%. Donc ça descend, mais on reste quand même à 1 sur 4 salariés qui nous disent avoir fait un burn-out dans les 5 dernières années.
Et alors pour ceux qui apparaissent souvent comme les méchants, c'est-à-dire les managers, ils sont dans quel état mental au travail?
Alors, je soutiens les managers parce qu'on en parle depuis très très longtemps. Vous m'avez introduit comme étant une experte des sujets humains, donc je les connais depuis très longtemps. Ils ont un rôle déterminant dans la santé mentale de leurs équipes, c'est vrai. Donc, c'est important qu'ils se sentent bien. Ils se sentent plutôt mieux que la moyenne quand on revient à notre panel. Il n'en reste pas moins qu'un sur cinq reste en situation de mal-être en termes de santé mentale. Mais les trois premiers leviers qui sont importants pour influencer sur le bien-être mental du salarié en entreprise sont le fait d'avoir un soutien managérial, le fait de pouvoir exprimer librement ses désaccords et de disposer de marques de reconnaissance régulièrement.
Merci beaucoup à vous, Fanny Potier, donc, pour nous avoir livré les conclusions de cette étude très riche du BCG pour et de l'IFOP pour MoCaCare, le BCG et le GHU Paris Psychiatrie. Merci beaucoup. Allez, merci. C'est l'heure. Allez, ben merci à vous. C'est l'heure de retrouver d'autres études.
BFM Business, la librairie de l'écho, des idées et des chiffres.
Et mise en lumière cette semaine, alors d'une étude que j'ai trouvée originale, passionnante, sur le coût, finalement, de la pause cigarette. Et oui, le tabagisme, avec près de 4 millions de fumeurs quotidiens en moins en 10 ans, ça c'est ce que nous dit Santé publique France, mais les pauses cigarettes continuent de coûter cher aux entreprises. Et là, on a un chiffrage donc qui a été fait par JobLeads, la plateforme internationale de recherche d'emploi. Le cumul des pauses cigarettes peut atteindre jusqu'à 2,95, donc presque 3 milliards d'euros par an, soit l'équivalent d'environ 170 000 emplois à temps plein au SMIC. Selon une étude YouGov, ça représente 92 heures par an, environ 1h77 par semaine. Alors la région la plus touchée, c'est évidemment l'Île-de-France, 1 milliard de coûts devant Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie. Les régions où les pauses cigarettes coûtent le moins aux entreprises, eh bien c'est la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique.
BFM Business, la librairie de l'écho, le coup de cœur de la rédaction.
Bonjour Adrien Guillaume Padovan, notre journaliste à la rédaction de BFM Business.
Bonjour Emmanuel.
Vous venez nous parler d'un livre singulier, Les Occupants de Michael Luken, un plongeon dans le Japon de l'immédiate après-guerre, un livre ambitieux, un travail remarquable. Pourquoi ce livre vous a-t-il passionné ?
Parce qu'il commence par un constat, Emmanuel. Et ce constat, qui devrait un peu nous faire honte à nous Français, c'est qu'on ne connaît presque rien en France sur cette période d'occupation américaine entre 1945 et 1952. C'est ce qui frappe d'emblée, d'ailleurs, c'est à l'ouverture de ce livre, il n'y a pas d'ouvrage de littérature en français sur lequel qui prend ce travail, et même dans l'opinion commune, parmi les gens, c'est quelque chose de peu connu. Donc c'est assez compréhensible aussi, car au même moment en France, on avait déjà beaucoup à faire.
Ouais.
Et pourtant, sur cette période, c'est un Japon qui vit un véritable basculement. Un basculement qui dessine tout son visage d'aujourd'hui, aussi bien sur le plan économique, sur le plan historique. Et Michael Luken, il vient combler ce vide. Il décrit une occupation totale, militaire, sociétale, économique. Et il décortique le projet politique américain autour d'un concept central, le pragmatisme.
Adrien Guillaume, ce pragmatisme, en principe, c'est plutôt un concept rassurant.
Oui, c'est un concept rassurant, mais en fait, les Américains, ils s'en sont servis comme une arme psychologique qui, en fait, ce concept, il est pensé par le philosophe John Dewey. L'idée, elle est redoutable. La liberté, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil pour obtenir l'adhésion des populations et faciliter les opérations militaires. Et c'est la première fois que les Américains, ils utilisent ce levier. Et c'est une rupture par rapport à différentes occupations précédentes, notamment aux occupations coloniales européennes. Tout y est méthodique, au service d'une stratégie pensée pour le long terme, à savoir le contrôle du Pacifique. Et c'est visionnaire aujourd'hui quand on pense à la place de la Chine dans la région, le tout en faisant donc à terme du Japon l'allié central des États-Unis et en remodelant les institutions et le modèle américain. Les États-Unis, ils ont ancré Tokyo dans le camp occidental et Washington, il a longtemps considéré que c'était un modèle en fait qu'on pouvait appliquer partout.
D'accord.
George Bush citait cette occupation pour l'Irak au début des années 2000.
D'accord. Est-ce qu'on peut considérer que c'était une réussite totale? Est-ce que finalement le miracle japonais infirme ou confirme ces choix stratégiques américains ?
Bien, à la fermeture du livre, je porte en tout cas une conviction, c'est que ce modèle japonais, c'est un miracle américain. C'est une mécanique de précision qui a été pensée par Washington avec trois leviers savamment combinés. Le premier levier, ça a été d'interdire au Japon d'avoir une armée offensive. Les Américains ont lui offert un avantage économique comparatif. On a eu le même en Europe, on a parlé très récemment avec la guerre en Ukraine des dividendes de la paix. Et puis le Japon peut se permettre grâce à cela d'investir dans ses usines, ses infrastructures avec une croissance phénoménale.
Ouais.
Le deuxième levier, c'est le démantèlement des Aibatsu, qui sont des immenses conglomérats de guerre qui ont porté le Japon dans son expansion et qui ont permis de créer un tissu après ce démantèlement industriel compétitif pour le Japon, avec après une redistribution des terres, une amélioration du droit du travail, une amélioration de l'architecture économique du pays. En fait, c'est une refonte structurelle totale et qui est restée. Et le dernier levier, c'est la stabilisation financière. Dès 1949, le plan dit Dodge, qui rend les exportations japonaises imbattables, le Japon il devient l'atelier des États-Unis en Asie, porté par des commandes colossales, notamment à cause de la guerre froide, tout simplement. Et c'est là que naît le fameux modèle du juste à temps, souvent présenté comme le génie nippon, mais en fait, c'est une méthode américaine qui est importée. Le Japon, grâce à cela, il est aujourd'hui l'un des alliés économiques et militaires les plus importants des États-Unis dans le Pacifique, et la question de son réarmement, elle se pose, l'évolution de ce modèle, elle se pose face à la Chine notamment, et Liu Kang y résume tout ça à travers une formule implacable. Washington est parvenu à imposer un système qui allie ses intérêts économiques à ceux du patronat japonais, si bien qu'il a fini par se défendre ce système lui-même. Ouais, ouais. Les Japonais, ils se sont complètement appropriés ce système. Alors, l'ont-ils vraiment choisi? Ça, c'est un autre débat, mais c'est ça le miracle économique japonais, c'est un miracle économique co-construit et dont le crayon a été tenu par les Américains.
Ouais, vous connaissez cette citation de l'économiste Paul Samuelson qui disait qu'il y avait... Il y avait cinq types d'économies dans le monde. Alors, c'était le début des années 60. Hein. Il disait, il y a les pays capitalistes, il y a les pays socialistes, il y a les pays dits du tiers-monde, l'Argentine, qui avait tout pour réussir et dont on comprend pas pourquoi elle a échoué, et le Japon, qui n'avait rien pour réussir et dont on comprend pas comment il a pu connaître une telle réussite. Et ben voilà, on a la réponse avec les occupants de Michael Liu Kang. Merci beaucoup pour cette éclairage. On se retrouve tout de suite pour notre ultime choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui ?
Alors j'ai choisi le livre qui vient juste de sortir de Benjamin Morel. Morel, c'est un juriste bien connu des plateaux de télévision car il est un spécialiste assez éminent et pertinent de droit constitutionnel. On s'adresse souvent à lui. Et son livre s'appelle « Crise politique, crise de régime ». C'est chez Odile Jacob. Et donc c'est une analyse de ce que nous vivons à chaud, à partir quand même d'un constat assez simple, c'est que le fondement de la Cinquième République, c'était l'existence d'une majorité parlementaire, c'est-à-dire une majorité et une opposition, alors que nous sommes revenus à la situation de la Quatrième République où il y a trois blocs. Et donc, dans ces trois blocs, il y a un bloc central qui essaie de dégager des moyens de gouverner, puis deux blocs qui sont effectivement, eux, dans l'opposition et qui sont, quand on fait l'addition, quasi structurellement majoritaire. Donc il dit, il va falloir réfléchir à comment retrouver cette logique du fait majoritaire. Donc c'est très concret, il rappelle un certain nombre d'éléments qu'on n'a pas forcément en tête sur le fonctionnement des institutions. C'est assez court, donc c'est un livre à lire.
Merci Jean-Marc. Eh ben écoutez, moi j'ai choisi de vous parler, c'était une collection dont on avait parlé à son lancement au début, ça s'appelle Easy Book. Et si vous repreniez le pouvoir sur votre argent. Alors, c'était fait pour les enfants, pour les juniors. C'est des cours d'initiation à l'économie et à la gestion de la finance. On sort de la semaine, justement, de l'éducation financière. Ça, c'est une bonne idée, Xavier Fontanet.
Très bien.
Voilà.
Ah ben oui. Ben oui, je pense que le jour où on comprendra qu'il n'y a plus d'argent, les choses iront mieux. Un des points communs des grandes réformes, c'est quand les chefs d'État ont dit « la dette est dangereuse ».
Voilà.
Et vous savez que les gens, dès qu'on commence à parler, à dire l'État, c'est comme un ménage, je pense que c'est très très bien de revenir à ça.
Alors voilà, il y a pour les 7 ans et plus, il y a des hors-séries, il y a effectivement aussi pour les adultes, et si vous repreniez le pouvoir sur votre argent, et puis il y a même un petit livre, Easy Smart, Be Smart with Your Money, c'est-à-dire en gros, voilà, comment bien gérer votre argent, parce que un pays aussi dynamique et entreprenant, c'est un pays qui maîtrise les bases de l'économie et de la gestion et de la finance. Voilà. Merci à tous les deux. Merci Xavier Fontanet. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture.